Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, lors de la dernière session du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, la présidente Bareil a annoncé la création d'un service montagne. Nous l'entendrons dans un instant. À Gap, l'association Mets de Partage aide les populations démunies. Notre ami Vince a interviewé son secrétaire. Un projet pour développer l'art urbain est lancé à Marseille. Nous ferons connaissance avec Tower Power et ses sculptures éphémères. Toujours à Marseille, l'association Artagon soutient et accompagne la création artistique émergente, le reportage de Colline Jutet dans ce magazine. Musiciennes classiques Elena Soucy et Ambre Villermoz ont partagé leur passion avec des jeunes manosquins, musique et interview à la fin de Force 7. Eliane Bareil veut créer un service montagne pour le 04.
C'est l'une des volontés les plus affirmées de la nouvelle présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Les travaux Route de la Rochaille et l'ouverture du col d'Alos en sont des signes. Interrogée par Odile Frison lors de la première véritable session de son mandat, Eliane Bareil évoque sa feuille de route, notamment la nomination des délégués du département au sein de diverses structures, dont le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS-04, qui devrait échoir à Jean-Claude Castel. Également l'établissement de son premier budget primitif, qui est d'ores et déjà en préparation.
Eliane Bareil, présidente du conseil départemental, vous avez choisi vos équipes.
Oui, ça y est, nous avons choisi nos équipes. Alors, la dernière séance nous a permis d'élire les vice-présidents. Et aujourd'hui, lors de cette séance, nous élisons tous les délégués dans les différents organismes, les organismes extérieurs. Et bien entendu, c'est qu'une première salve de désignation, puisqu'il y aura encore, lors de la prochaine session, de nombreuses désignations à faire.
Est-ce que vous avez choisi quelque chose par rapport au budget supplémentaire ?
Non, le budget supplémentaire de cette année, il va servir simplement à réajuster, donc c'est vraiment à la marge. Il n'y a pas de sujet sur le budget supplémentaire. Par contre, évidemment, nous commençons à travailler sur le budget primitif de l'année prochaine. Bien sûr, là, on va mettre en place notre propre politique. Mais aujourd'hui, on est dans la continuité, on adopte le compte administratif donc du président René Massette et un budget supplémentaire, mais vraiment très très à la marge.
Pour le SDIS 04, c'est Jean-Claude Castel qui est président.
Alors, il n'est pas encore président. Pour l'instant, nous élisons aujourd'hui les membres du service départemental incendie, les conseillers départementaux qui seront désignés. Par contre, j'ai prévu de donner à Jean-Claude Castel la représentation du conseil départemental. Donc aujourd'hui, c'est mon représentant et demain, j'espère, ce sera le président. Les sujets les plus importants, bien sûr, sont les désignations, le budget supplémentaire, mais je vais quand même faire une petite ouverture préliminaire en rappelant donc les gros chantiers en cours que nous avons visités avant-hier sur le terrain, donc le Pas de la Rochaille, le Col d'Alos, en rappelant aussi que grâce à l'action des entreprises et des agents du département et à ma demande très insistante, nous allons réussir à ouvrir le Col d'Alos avec 8 jours d'avance, ce qui est énorme par rapport à l'économie de ces deux vallées qui ont besoin effectivement du col d'Alos et de cette route qui les relie pour développer leur tourisme et leur économie, et notamment ce qui concerne la restauration et l'hébergement. Donc ça, c'est, je vais faire cette déclaration préliminaire. Peut-être rappeler aussi qu'aujourd'hui, que bien sûr j'ai réfléchi à une réorganisation des services. Il ne s'agit pas du tout de chasse aux sorcières, je le précise, parce que quelquefois les choses sont mal interprétées. Il s'agit de réorganiser et surtout d'apporter apporter des compétences là où il y en aura besoin, en fonction de la stratégie politique que nous mettons en place. En particulier, je veux renforcer les équipes jeunesse et sport parce que je veux que ce département rayonne. Donc, il n'est pas improbable que je réorganise cette direction. Et de la même façon, je veux créer un service montagne qui aura pour vocation à s'occuper de toutes les problématiques de montagne. Donc, pas seulement les routes, bien sûr, pas seulement les stations, surtout, mais aussi toutes les problématiques liées à la montagne, le comité de massif des Alpes, les fonds transfrontaliers, etc., etc. Donc, tout ça, ça va nécessiter une petite réorganisation. C'est ce que je suis en train de mettre en place.
Vous avez l'énergie pour ça?
J'ai l'énergie, mais j'ai surtout, franchement, un grand désir de donner à ce département l'aura qu'il mérite.
Vous êtes la première femme à être présidente du département?
Oui, je suis la première femme et puis je représente aussi le retour à l'alternance puisque quand même depuis Pierre Rinaldi, la droite n'avait pas été aux manettes de ce département. Alors je dis pas que je vais tout révolutionner, mais je pense que on va investir. J'ai déjà travaillé avec le DGS sur le plan pluriannuel d'investissement. Et évidemment, nous allons mettre en place des investissements massifs. Nécessaire pas seulement aux services départementaux, mais nécessaire à toute l'activité économique de ce département.
L'association Main de Partage aide les plus démunis sur Gap.
Main de Partage existe depuis plusieurs années sur Gap. L'association fournit de l'aide alimentaire aux plus nécessiteux à travers des dons provenant principalement des grandes surfaces. Ponctuellement aussi, elle organise des braderies et propose du mobilier divers d'occasion. Christian Brouat, secrétaire de l'association, dresse un bilan des aides octroyées et annonce une braderie qui aura lieu à la rentrée. Il répond aux questions de Vincent Vacher.
L'association existe depuis septembre 2011. Elle est, disons, venue au monde par la volonté de quelques habitants de la région gapençaise qui se sont rendus compte que sur les Hautes-Alpes, il existait des situations de pauvreté et que il était important de venir en aide à ces personnes. Ils ont décidé de leur venir en aide en leur proposant de l'aide alimentaire. Alors cette aide alimentaire est donc faite pour des personnes qui ont des difficultés financières en particulier, mais toutes autres sortes de difficultés aussi. Et on leur propose toutes les semaines une aide alimentaire avec des produits variés, des produits frais, des légumes, de la viande, des conserves évidemment, des produits secs aussi. Et cela toutes les semaines. Alors les personnes viennent s'inscrire chez nous, on regarde leur situation. Et en fonction de leur ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui leur reste après avoir dépensé le loyer, les charges, le téléphone, l'électricité, le gaz et l'eau et les diverses assurances, on regarde ce qui leur reste et en fonction d'un barème, on les accepte dans notre association pour ils deviennent bénéficiaires de l'association. Voilà. Évidemment que l'aide alimentaire suppose des moyens, et ces moyens ce sont par exemple un local, qui est en location, c'est aussi des véhicules pour transporter les denrées, dont un véhicule réfrigéré, c'est aussi des moyens de conservation, chambre froide, congélateur, réfrigérateur, et donc ces moyens, pour les obtenir évidemment, on propose aussi la vente de produits divers, c'est-à-dire des vêtements en particulier, des livres, du mobilier, de l'électroménager, et tout ça à des prix évidemment très 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 bas. Mais cette activité-là est proposée non pas simplement aux personnes en difficulté, mais à tout le monde. Et cela nous permet évidemment de financer la partie aide alimentaire. Alors, nous sommes 30 bénévoles, alors ça varie de temps en temps parce qu'il y en a qui s'arrêtent et il y en a qui reprennent. Enfin, c'est à peu près 30 bénévoles et nous avons un salarié, une personne salariée qui permet de faire fonctionner l'association. Nous sommes ouverts, disons, tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Au niveau de l'aide alimentaire, nous fonctionnons, nous distribuons cette aide le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le samedi matin. Cette aide alimentaire, elle est le don de certains citoyens, peut-être, mais elle est c'est surtout le don de grandes et moyennes surfaces de la région qui distribuent leur surplus.
En tant qu'association, êtes-vous soutenu par les collectivités, par exemple, ou d'autres structures ?
Oui, nous recevons régulièrement une subvention de la part de la mairie de Gap et de la part aussi du département du 05. Durant la pandémie, nous avons été aussi très fortement soutenus par non seulement le département, mais aussi par une aide, avec une aide complémentaire à celle qu'ils nous donnaient habituellement, mais aussi par l'État, hein, par l'État à travers le ministère des Affaires sociales. Voilà.
Depuis cette pandémie, vous avez peut-être constaté justement une forte augmentation de la demande à ce niveau-là de l'aide alimentaire.
On a constaté une demande différente, c'est-à-dire des personnes nouvelles sont venus, c'est-à-dire c'est des personnes qui fonctionnaient normalement et puis tout d'un coup elles ont été frappées par les mesures restrictives et se sont retrouvées dans des situations de pauvreté et donc sont venues nous voir. Mais d'autre part aussi on a perdu des bénéficiaires parce que certains ont peut-être eu peur de venir, hein, vu la situation, bien que on distribue en prenant toutes les précautions nécessaires pour cela. Mais bon, voilà, donc ce qui fait que l'un dans l'autre, on ne peut pas dire qu'on ait augmenté notre fréquentation, et on est resté à peu près constant.
Très bien, il y a des braderies également que vous organisez. Là aussi, avec ces restrictions, il y en a quelques-unes qui ont été annulées, mais peut-être y aura-t-il d'autres choses à signaler, d'autres dates peut-être au niveau des braderies.
Alors il y aura d'autres dates à mettre sur les agendas, certainement en septembre. Mais pour le moment, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit à ce sujet, puisque on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir, hein, et comment sera la situation au mois de septembre. C'est difficile de le savoir maintenant.
On peut vous retrouver où, main de partage, au niveau de l'adresse physique ou des réseaux sociaux, par exemple?
Alors, main de partage au niveau de l'adresse physique se trouve aux Essanières, la rue Déjeuner.
Des sculptures éphémères pour interpeller le public.
À Marseille, l'artiste Lorca et la Fondation Desperado pour l'art urbain ont lancé le projet Tower Power. Du 19 au 23 juillet, 5 artistes, Smith 367, Olga Chalachova, Clément Pélisson, Quentin Dupuis et Gabriel Bercolano, accompagnés de Lorca, ont conçu 5 sculptures éphémères faites d'encombrants et de déchets dans différents lieux de la cité phocéenne. Hotspot, Ecstasy, Baby Run, Sculpture et Dirty Free ont toutes les 5 des formes et messages variés. Colline Juté est allée à la rencontre de Stéphane Caricondo, directeur artistique de la Fondation Desperado pour l'art urbain et des artistes collaborant avec Lorca. L'occasion d'en savoir plus sur le travail autour de ces installations urbaines.
Bonjour,
Stéphane Caricondo.
Vous êtes directeur artistique de la Fondation Desperados pour l'art urbain. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce projet Tower Power?
Alors c'est un projet qu'on a co-créé avec Lorca. Donc Lorca, c'est une artiste qu'on suit depuis un moment et qui a une pratique vraiment singulière dans l'art urbain. On avait vraiment envie de travailler avec elle et donc on a travaillé sur un projet où elle collabore avec 5 jeunes artistes. On a travaillé avec Artagon qui a créé un appel à projet et qui a permis de rencontrer ces artistes, de les sélectionner. Donc il y a eu un jury qui les a sélectionnés. Et puis là, il y a eu une semaine de travail, on va dire, en atelier dans les locaux d'Artagon et qui a permis de construire le projet, donc d'établir la rencontre. Et puis là, on est dans une semaine d'intervention. Chaque jour de la semaine, un artiste réalise une sculpture dans l'espace urbain. Ce qui est intéressant, c'est que Lorca travaille avec vraiment les déchets qu'elle trouve et qu'elle trouve in situ. On n'est pas dans un travail de collecte où après on crée en atelier et on repositionne la sculpture dans l'espace urbain. On est vraiment dans la création, dans l'espace. Donc c'est ça qu'on trouve vraiment, qu'on trouvait vraiment intéressant et qui fait partie de sa pratique et qu'elle partage sa pratique avec son expérience avec d'autres artistes.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la Fondation Desperados, la ligne artistique de la Fondation ?
La Fondation est là pour en tout cas soutenir la culture urbaine au sens général et aussi vraiment de permettre de créer des liens entre des artistes plus expérimentés et des artistes plus jeunes et partager, être vraiment dans des valeurs collectives de partage.
Aux 5 monuments éphémères érigés, un nom et un message différents. Hotspot.
Lundi, on a eu l'intervention donc de Smith 367 qui nous a proposé une peinture thermique. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé un tas d'encombrants et avec sa caméra thermique, il a capturé la chaleur que dégageaient les encombrants. Et en fonction de cette chaleur, ça décrit toute une gamme de couleurs et on l'a reproduite sur les déchets. Donc, ça donne une sorte de tas d'encombrants avec des dégradés de couleurs assez fous en lien avec leur réelle propagation de chaleur.
Ecstasy.
C'est en télé à Bonne Année que je trouvais dehors et je voulais capturer ce moment que l'objet à Bonne Année dehors, c'est comme il est en train de mourir et c'est comme une lame qui ressort d'objet. Donc j'ai démonté jusqu'à la dernière vis et j'ai installé sur le mur un genre de peinture. J'ai beaucoup travaillé avec des objets électroménagers, c'est ce que je fais tout le temps, je démonte, j'installe, je fais un dessin dans l'espace, une peinture 3D. Aujourd'hui, dans la société, c'est plus facile à acheter le nouveau que réparer l'ancien.
Et on peut vous suivre sur Instagram, vous, votre nom d'artiste ?
Sur Instagram, c'est Olga Chalachova, tout simplement.
Baby Run.
Bonjour, on va construire à partir de grilles récupérées, de structures de lit, de structures de sommier, tout ce qui peut s'apparenter à une grille, de la cagette, etc. Construire une grande cage pour les rats urbains. C'est une parodie un peu de la cage domestique, pour parler de l'espèce du rat. Quand il est domestiqué, on le trouve très mignon, on l'adore, et quand il est... dans la rue, au milieu des déchets, ça devient la pire espèce et ça nous dégoûte. Donc ça va être une grosse structure métallique dans laquelle seront emprisonnés des sacs poubelles remplis de déchets, qui sont un peu le terrain de jeu favori des rats. Et cette cage sera traversée par un tuyau rouge mais opaque. Donc à la différence d'une cage domestique où on observe le rat, on le voit vivre, manger, jouer, s'amuser, on a un rôle de domination sur lui. Là, c'est plutôt lui offrir une forme d'abri pour se détacher un peu de ce rapport spéciste qu'on peut avoir avec le rat. Moi, c'est Clément Pélisson, mon nom, et j'officie aussi sous le nom Accoudoir.
Dirty Free.
Le projet que je vais réaliser demain avec Lorca en collaboration s'appelle Dirty Free. Et donc l'idée, c'est de recréer une gondole de magasin, c'est-à-dire une étagère de magasin, avec des morceaux de carton et de bois qu'on va récupérer dans la rue, de façon à recréer l'impression d'une mise en rayon ou d'une mise en valeur des déchets, de ce qui se trouve habituellement au sol, qui sera mis, cette fois, multiplié sur différents étages à la verticale et amené à hauteur du regard. Vous pouvez voir mon site internet, c'est quentindupuis.fr.
Sculpture.
Et vendredi, on a Gabriel Bercolano qui, lui, va nous proposer une sculpture de pneus. Donc, ça va être une accumulation où il va justement redonner leur vivacité originelle en les repeignant d'un noir mat, où il va redessiner chacune des sculptures. Donc, les sculptures, c'est aussi les dessins qu'il y a sur les bandes de roulement des pneus. Ça s'appelle ainsi. Et il va les redessiner à la peinture brillante et il va placer ces sculptures sur des plots, normalement.
Artagon soutient la création artistique émergente à Marseille.
Quartier Sainte-Marthe, avec ses imposants panneaux publicitaires toujours présents, l'ancienne usine Ricard capte les regards. Mais aujourd'hui, une toute autre activité s'y développe, chapeautée par l'épopée. Dans les 12 000 mètres carrés d'espace extérieur et de bureaux, foisonnent des structures, associations, fondations, entreprises, de la culture, de l'éducation et également de l'économie sociale et solidaire. Parmi celles-ci se trouve Artagone, une association dédiée au soutien, à la promotion et à l'accompagnement de la création artistique émergente à Marseille et dans la région. Fondée par Anna Labouze et Kémis Eni, Artagone ouvrira les portes de ce nouveau lieu fin août 2021. Colline Juté a interviewé ces dynamiques acteurs culturels.
Bonjour Anna Labouze et Kémis Eni, vous êtes fondateur et fondatrice d'Artagone. Qu'est-ce que c'est Artagone ?
Artagone, c'est une association qu'on a fondée en 2014 quand on était étudiant pour supporter et défendre les artistes de notre génération. Et donc c'est un projet qui a évolué depuis. On organise des expositions, des formations, des rencontres. Et puis depuis 2021, on a l'idée d'ouvrir un réseau de lieux dédiés à l'accompagnement de la création émergente à travers la France.
Et justement, du coup, Artagone s'installe à Marseille, donc dans l'ancienne usine historique de Ricard. Et pourquoi un tel lieu ? Pourquoi Marseille ?
Marseille, c'est une ville qui attire beaucoup les jeunes artistes et les jeunes professionnels de l'art, de la création, de la culture aujourd'hui. C'est une ville très dynamique sur le plan culturel. L'objectif de l'association, c'est d'être là où la création, où les artistes sont présents. Et c'est pour ça que Marseille s'est imposée comme une évidence.
Quelle forme prendra ce lieu de plus de 1500 m² dans les quartiers nord de Marseille ?
Là, on se trouve dans l'ancienne usine Ricard. Donc Ricard a déménagé il y a quelques mois. Et donc nous, on occupe cette surface au sein de l'ancienne usine qui en tout fait 3000 m². Les espaces se divisent en différentes parties. En fait, il y a des étages qui servaient de bureaux à l'époque et qui aujourd'hui vont servir d'atelier pour les jeunes artistes. On a aussi des espaces de coworking pour les acteurs de la jeune création, des espaces de réunion. Et puis au rez-de-chaussée, là où se trouvait véritablement la partie usine, on est en train d'aménager des espaces à la fois de production, donc on va des ateliers qu'on va doter de machines, et puis des espaces de programmation, des salles d'exposition, des salles de projection pour pouvoir organiser des événements culturels et de la programmation. Et puis on a une cour aussi en extérieur où était chargé le Ricard à l'époque qui va servir pour la programmation.
Comment avez-vous sélectionné les artistes et professionnels de la création qui deviendront résidents dans ce lieu artistique partagé ?
Alors, ils ont été sélectionnés à l'occasion de 3 appels à candidature publique qui ont été organisés au printemps dernier et qui ont été suivis par 3 comités de sélection avec différents critères. Les premiers critères, les principaux, c'était d'être artiste ou professionnel de l'art émergent et d'être établi à Marseille ou dans la région. Donc l'idée étant de surtout contribuer à faire éclore et à structurer la scène artistique de Marseille.
Il y a vraiment un petit peu toutes les disciplines qui sont représentées, les disciplines artistiques. Donc par exemple, il y a de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la vidéo, de la performance, mais aussi du son, du théâtre, du cinéma, de la danse. Donc ce sera vraiment un lieu pluridisciplinaire. Et on a aussi sélectionné des résidents qui ont des pratiques engagées parce qu'on se trouve dans les quartiers nord et que pour nous c'est important de pas construire un bunker où les artistes viendraient travailler et rentreraient chez eux le soir, mais d'essayer d'aller à la rencontre des habitants, de leur proposer des projets participatifs, collaboratifs. Donc ce sont aussi toutes et tous des porteurs de pratiques vraiment engagés et en lien avec la société et le monde qui nous entoure.
Et quels seront les prochains événements ouverts au public ?
Alors, les prochains, c'est surtout notre ouverture à la fin du mois d'août. Donc, les 26, 27, 28 et 29 août, c'est ce qu'on a appelé l'ouverture des portes. Donc, c'est l'ouverture du lieu. C'est l'occasion de le visiter, de visiter les ateliers, de rencontrer les résidentes et les résidents. Et il y a toute une programmation qui va être proposée par les résidents à cette occasion avec des projections, des performances, des concerts, des rencontres, des conférences, des ateliers. Donc c'est comme un mini festival avec une offre extrêmement riche, foisonnante pour montrer comme un extrait de ce qu'on va proposer ensuite dans les mois à venir.
Ok, super. C'est un rendez-vous donné à tous ceux qui peuvent y aller. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
duo Aves, la musique en partage.
Elena Soucy et Ambre Villermoz forment le duo Aves. Pianistes et accordéonistes, elles enseignent aussi la musique et donnent des concerts lorsque la situation sanitaire le permet. Le partage leur est naturel. Avec des élèves ou un public, la dynamique est très répandue chez les artistes. Mais le duo va plus loin. Ambassadrice de compositeurs classiques, romantiques ou contemporains, et avec l'association Jeux d'Anche, elles sont allées à la rencontre d'habitants des quartiers populaires de Manosque. Un piano et un accordéon au pied des tours, ce n'est pas si fréquent, et l'idée, surprenante, a réussi à séduire. De plus, elles ont animé des ateliers à la MJC de Manosque pour sensibiliser les plus jeunes à l'écoute. Grâce au talent des instrumentistes, c'est la puissance évocatrice d'une mélodie ou d'une harmonie signée Ravel ou Stravinsky qui a été partagée avec des enfants. Les deux musiciennes répondent à mes questions, mais d'abord, une plongée dans l'atelier avec des enfants au piano. Elena Soucy et Ambre Villermoz, vous avez passé une partie de votre été à Manosque. Comment est-ce que ça s'est passé, Elena ?
Alors, ça s'est extrêmement bien passé. On a été ce week-end jouer dans les quartiers desserrés et le quartier Saint-Lazare pour avoir un premier contact avec les locaux. Et ensuite, on est actuellement en train de faire un atelier pédagogique avec des enfants de 7 à 11 ans. Ça se passe vraiment bien. On est en train de finir l'atelier actuellement.
Vous avez mis la musique à portée en fait, de gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter vos instruments, je rappelle le piano et l'accordéon.
C'est la musique classique, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une musique déjà que les gens en général écoutent au quotidien. Donc nous ce qu'on aime c'est partager cette musique qu'on aime beaucoup et la porter un peu partout. Donc là c'était bien, on allait jouer dans les quartiers, donc en extérieur, on a joué du Ravel, du Stravinsky, et aujourd'hui encore on leur a fait écouter beaucoup de musique, on les a fait aussi pratiquer sur les instruments, et là on va leur faire un petit concert pédagogique.
Comment est-ce que c'est reçu cette musique par des gens qui n'ont pas l'habitude de l'écouter ?
Plutôt très bien en général. Les gens, c'est de la belle musique en fait, donc je pense que les gens sont sensibles à ça. On essaie toujours de l'introduire un peu en expliquant le contexte. Là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup autour de la musique à programme, donc de la musique avec une thématique. Par exemple, là, c'est Mamerlois de Ravel, donc c'est sur des contes. Ou le Sacre du printemps de Stravinsky, c'est sur aussi des thématiques de rituels païens russes. Donc il y a aussi un support d'imaginaire qui peut aider aussi à accéder à ça.
Pour ce dernier atelier, vous avez fait exprimer des enfants, notamment au piano, Elena, avec une évocation de la mer.
Exactement. Donc on s'est mis d'accord avec une petite équipe d'enfants pour essayer de trouver des images qui correspondaient réellement à ce que pouvait être un coucher de soleil sur la mer. Donc on avait Jeanne qui était en bas et qui faisait des vagues ou glissando, mais en très peu de temps, ils se sont appropriés les quelques éléments que je leur ai montrés en fait pour pouvoir nous faire deviner ce thème choisi. Donc c'est chouette de pouvoir assister à ça, ça va si vite.
Est-ce qu'on peut dire que quelque part vous avez semé une petite graine chez ces jeunes musiciens ?
On espère. On espère, en tout cas, on a senti de l'intérêt, je crois. Ils étaient du début à la fin très concentrés.
Ambre, vous avez aussi une carrière professionnelle, toutes les deux, en même temps que votre atelier ici même à la MJC à Manosque. Comment ça se passe pour les musiciens après ces mois difficiles du confinement ?
Alors, c'est vrai que l'année qui vient de passer a été longue et éprouvante. Après, avec Elena, on enseigne toutes les deux, donc on a continué à enseigner, parfois en visio, parfois en vrai. Ça a été aussi compliqué pour ça. Mais les concerts là qui reprennent, c'est sûr que c'est un vrai bonheur pour nous et ça donne du sens à tout le reste. Donc de retrouver le public, les gens, c'est vraiment vivifiant.
De faire des projets aussi ?
Oui, de faire des projets, d'avoir des perspectives d'avenir. On en a plein des projets avec l'association Jeux d'Anche, là, donc ça va être une super saison, vous allez voir.
Alors on peut peut-être en dévoiler quelques-unes de dates.
Alors l'année prochaine, l'association Jeux d'Anches, on fait une saison musicale comme on a fait cette année, mais bon, mauvais timing avec le Covid évidemment. Mais donc on a des concerts de musique de chambre, on a un atelier pédagogique avec le Centre de l'Enfance où il y aura une semaine d'initiation aux instruments, donc accordéon, piano et flûte à bec, donc avec une amie flûtiste qui vient aussi donner des cours pendant quelques jours. Et l'autre gros projet pédagogique, c'est un opéra dans les quartiers au mois d'avril 2022. Et donc ça, c'est encore en cours d'élaboration. Donc vous en saurez plus bientôt sûrement.
Et vous recrutez des choristes ?
Peut-être, peut-être, on vous tiendra informés.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier. Juste une précision, vous dire que pendant quelques semaines, pendant le mois d'août tout simplement, le magazine Force 7 sera suspendu et on se retrouve bien sûr à la rentrée après quelques jours de repos pour chacun d'entre nous. Profitez de vos vacances. Attention au soleil, attention aussi à l'eau et bien sûr à un certain Covid-19. À très bientôt Olivier.
À bientôt François.